prêtant notre attention parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes dans l'année de consécration comme nous venons de le déclarer pour 2024. Et le texte de base, c'est 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Et nous allons lire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois, du temps de votre ignorance. Le verset commence ici maintenant. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. C'est le verset de base de l'année 2024. Et le thème du mois de mars, c'est la responsabilité de l'homme dans la consécration. Nous avons eu un séminaire le week-end passé. Je vais reprendre brièvement quelques définitions. La définition de la responsabilité. Ce que le dictionnaire m'a dit, premièrement, la responsabilité fait référence à une obligation d'accomplir certaines fonctions afin d'atteindre certains résultats. Deuxième définition, la responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc. C'est aussi la charge, mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. C'est ça la définition de la responsabilité. Et la définition de la consécration, je me suis résumé, la consécration, c'est le fait d'être mis à part pour servir Dieu. C'est le fait d'être saint, comme Dieu nous a invités, soyez saints, car je suis saint. Alors, soyez saints, c'est conjugué à l'impératif, soyez saints. C'est-à-dire que nous devons être consacrés. C'est à nous d'être saints. C'est à nous d'être saints. Quand on dit soyez saints, ça nous responsabilise. Alléluia. Dieu nous a donné la position de sainteté par la mort de Jésus-Christ, par le sacrifice. Nous avons accepté et nous sommes positionnés en tant que peuple saint, un peuple acquis, mis à part pour Dieu. Oui. Et il s'attend à ce que nous puissions marcher dignement dans la sainteté. Vous voyez, nous sommes positionnés, il faut alors marcher. Donc, je prends l'exemple d'un médecin. Un médecin se montre médecin par la pratique. Il a une blouse blanche, il a un bureau, il a du matériel qu'il faut. Donc, il a la dotation qu'il faut. Mais c'est à lui de se comporter en médecin devant les patients, devant la population. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais malade. Je me suis forcée, je me suis efforcée d'aller chez le médecin parce que ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai pris la voiture. Je suis allée. Et quand j'ai expliqué au médecin les signes, les symptômes et comment la maladie est apparue, tout de suite, elle a dit, la façon dont c'est arrivé brutalement là, ça veut dire que c'est telle maladie. Vous voyez? Parce qu'elle est médecin et elle a affirmé la maladie que j'ai. Elle maîtrise bien son domaine parce qu'elle est médecin. Alors pour nous, c'est la même chose. Nous, nous sommes positionnés. Alors on doit affirmer notre position. Nous sommes appelés à prendre conscience de notre identité et nous engager à marcher d'une manière digne de notre rang. Non en deçà, il faut marcher dignement. Nous sommes de la race sainte du Seigneur et son peuple choisi. C'est ce que 1 Pierre 2:9 nous dit. Et certains d'entre nous sont dévoués d'une manière plus spéciale que d'autres. Alors nous allons lire le texte de notre méditation qui est dans Actes 13. Actes 13, les 5 premiers versets. Actes 13, les 5 premiers versets. Si on peut se tenir debout, c'est bon. Et nous allons lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'avez pas suivi le culte ce matin, je vous le recommande. Je vous le recommande. Quand vous aurez le temps, prenez le temps. Asseyez-vous bien. Et suivez, on a eu un excellent message. C'était puissant. C'était très bien. Alléluia. Ne vous privez pas de ces messages. Donc, le récit que nous venons de lire est raconté par Luc, l'évangéliste Luc, qui était médecin. Il nous parle de l'église d'Antioche, fondée dans Actes 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Vous pouvez les lire tout tranquillement à la maison. Vous allez voir comment cette église a été fondée. Donc, elle était préparée à devenir le deuxième centre missionnaire dirigé vers les païens d'Asie mineure et en Grèce. Le premier centre missionnaire, c'était Jérusalem. Et là, il y a l'église qui est née à Antioche. Et d'ailleurs, c'est là, pour la première fois, qu'on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Voilà, c'est devenu un centre missionnaire. Il y avait en son sein des prophètes. Donc, si nous lisons 1 Corinthiens 14, 2, nous allons voir qu'il y avait des prophètes, des docteurs, et ces derniers étaient par leur lumière et par l'assistance du Saint-Esprit capables d'enseigner, puisqu'ils étaient éclairés par la parole de Dieu et qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils étaient capables d'enseigner leurs frères dans la vérité divine. Pourquoi? Pourquoi ils en étaient capables? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est le dirigeant de l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le dirigeant en chef. Le dirigeant de l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient enseigner dans la vérité. Et Dieu veut que nous soyons dans une relation juste avec le Saint-Esprit, comme ceci. Dieu nous appelle cet après-midi à être dans une relation juste avec le Saint-Esprit. Il veut que nous lui donnions la latitude d'agir tous les jours dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas un jour, deux jours et puis après on laisse tomber. Ça doit être permanent. Il doit être notre compagnon de route. Il doit être là, agir en nous. Dans tout ce que nous faisons, il doit être le premier. Il doit occuper toujours la première place à l'intérieur de nous. Ce qui est important, c'est à l'intérieur là. Parce que Dieu regarde l'intérieur. C'est l'intérieur qui concerne, que Dieu regarde, comme je l'ai dit. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'apparence. L'apparence, ce n'est rien pour Dieu, c'est l'intérieur. Donc, il veut occuper la première place à l'intérieur de nous. Alléluia. Mm-hmm. Alors, à Antioche, Dieu a fondé l'église à Antioche pour réaliser ses plans personnels. Il avait des plans personnels. Dites avec moi, des plans personnels. Il avait des plans personnels. Ceux de toucher les nations païennes en Asie et en Europe. Alléluia, eux, ils étaient à Antioche. Et il avait cette vision-là. Il avait ses plans. Et c'était à Antioche que les choses se passent. Donc, Dieu avait les plans pour l'église d'Antioche. Il a les mêmes plans pour toi et moi. Nous ne marchons pas vaille que vaille. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu t'a consacré dès le sein de ta mère pour réaliser des plans qu'il a conçus exactement comme l'église d'Antioche qui a été mise à part pour accomplir ses desseins. Toi aussi, tu es mis à part. N'est-ce pas que c'est intéressant? Ah oui. Dieu est bon. Il nous a mis à part. Il nous a consacrés. Tout comme ses serviteurs à Antioche, ses desseins te sont cachés. Parce que tu ne les connais pas. Il t'a consacré, mais tu ne sais pas quels sont ses desseins. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Il est le seul qui sait pourquoi il t'a placé à El Shaddai. Il sait pourquoi il t'a placé au Luxembourg. Il sait pourquoi il t'a placé en France. Il sait pourquoi il t'a placé en Belgique. Il sait pourquoi il t'a placé là où tu es. Toi, tu me regardes à travers les réseaux sociaux. Il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Il sait pourquoi tu te trouves là. Et il appartient à toi et à moi, à chacun de nous, de chercher à découvrir son plan. Oui, parce que Dieu procède comme ça, il cache les choses. Il cache les choses. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Il trouve sa gloire en cachant les choses. Quand je donne les conseils aux femmes, je dis, tu sais, Dieu a caché quelque chose à l'intérieur de toi. C'est dans ton cœur. Et vous savez, la gloire de l'homme, la gloire de ton mari, c'est de chercher et de trouver ce que Dieu a caché en toi, là. Et je sais ce que l'homme cherche. Il cherche un cœur paisible, un esprit paisible, doux et paisible. Quand l'homme te marie, tu es toute belle, tu marches avec les pattes de biche, tu te tortilles, tu mets la peinture sur toi, tu es pimpante. Mais ça ne dit rien à l'homme. Il va chercher à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que Dieu procède comme ça. Il cache les choses dans les cœurs. Il cache. Il ne montre pas comme ça. Il cache. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses et de les découvrir. Donc, les hommes, ils cherchent dans le cœur de la femme, à l'intérieur de la femme, un esprit doux et paisible. Quand un homme cherche et trouve ça, ah là 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 là, il est l'homme le plus heureux au monde. Ah oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un esprit doux, un esprit paisible, n'est-ce pas, Jenny? Ephraim, il est tout content, tout heureux. Je bénis Dieu pour Ephraim qui a trouvé ce qu'il cherchait en elle. Un esprit doux, un esprit paisible. Eh oui, c'est à toi de chercher à savoir quels sont les plans de Dieu pour toi. Les hommes, vous êtes contents. Hein? Mais Dieu a dit aussi d'aimer la femme, hein? Jusqu'à mourir pour elle. Même si tu vas accepter de tomber dans le puits là pour qu'elle vive, il faut accepter de le faire. Yes, prendre soin de la femme, la chérir, lui dire tu es belle, je t'aime telle que tu es, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, chérie? La journée s'est bien passée. Voilà ce que les femmes veulent. Veulent pas plus que ça. S'intéresser à elles. Et c'est bon. Et c'est gagné. Voilà, donc nous allons voir aujourd'hui comment assumer notre responsabilité dans la consécration. Comment assumer notre responsabilité dans la consécration. Premièrement, Dieu veut que chacun à El Shaddai, ceux qui nous écoutent, sachent comment assumer notre responsabilité dans la consécration. Dans ce que nous avons lu, premièrement, il faut découvrir le plan de Dieu pour toi afin de réaliser l'œuvre selon ses ordres, selon sa volonté. C'est au verset 2b. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que tout est clair pour Dieu, dans la tête de Dieu, tout est clair. Il est le Dieu des détails, il détient tous les détails. Et pour parvenir à ta destinée, tu as à suivre ses ordres et lui obéir. C'est comme ça. Puisqu'il est le seul à connaître les détails. Il connaît les détails des plans. Donc, tu dois te mettre en position d'obéissance. Tu dois connaître ses ordres et les obéir et obéir à ses ordres. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous révèle les choses petit à petit. Il ne nous révèle pas d'emblée comme ça. Sinon, c'est grave seulement. C'est au fur et à mesure que nous avançons que nous allons découvrir les choses. Et comme il l'a fait pour son peuple dans le pays de Canaan, quand le peuple d'Israël est arrivé au pays de Canaan, le Deutéronome 7, verset 22 nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Donc Dieu est sage dans tout ce qu'il fait. Il révèle un peu, et tu grandis petit à petit. Tu découvres la volonté de Dieu. Parce que s'il te montre tout, tu vas fuir. Hein? On a vu le message ce matin, les quatre étapes hein, dans notre responsabilité. Hein? Notre consécration, il y a des choses qui font peur. Si Dieu nous montre tout, il t'appelle à être, par exemple, pasteur. Tu es tout content, je vais aller me former et tout. Mais s'il te montre déjà toutes les souffrances que tu vas subir là, tu vas dire, si c'est comme ça, non, merci. Mais c'est un peu. Il va te révéler ce qui est utile au fur et à mesure pour que tu connaisses sa volonté. Le gros souci pour nous, c'est que nous voulons présenter à Dieu nos plans, tout fait, et lui demander de les exécuter. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est à nous de découvrir sa volonté, à découvrir ses plans et à marcher dans sa volonté. Ce n'est pas à nous de venir dire, voilà, Seigneur, tu as vu ça. Je dois faire tout ça. Il faut les exécuter pour moi. Parce que sans toi, je ne peux rien. Ça ne marche pas comme ça. Dans la consécration, c'est l'effet contraire. Alléluia. Deuxièmement, il faut recevoir la révélation. Recevoir la révélation, c'est verset 2b. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous savez, à Antioche, les plans de Dieu d'étendre son royaume étaient déjà ficelés. Il voulait étendre son royaume, comme j'ai dit, jusqu'en Asie et en Europe. Et c'est au Saint-Esprit d'appeler et d'envoyer des personnes pour qu'ils accomplissent l'œuvre pour laquelle Dieu les a envoyés. Il est important de recevoir la révélation pour ne pas se trouver à faire une œuvre qui ne t'était pas destinée. Parce que tu perds ton temps. Il est très important de recevoir la révélation. Il le fera au travers de son Esprit Saint. Et c'est celui qui montre, il est celui qui montre, qui enseigne et qui nous amène à des choses que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Quand le Saint-Esprit te donne les directives, peut-être que ton voisin va dire, mais c'est bizarre. Et on nous donne l'exemple d'un grand prédicateur, je ne me rappelle plus son nom, des siècles passés. Le Saint-Esprit l'a convaincu de donner un coup de poing à quelqu'un qui avait mal au ventre. Quelqu'un qui vient mal au ventre comme ça. Et le Saint-Esprit lui dit, donne-lui un bon coup de poing au ventre. Et il l'a fait. La personne a été délivrée. La personne a été guérie. Donc, on peut pas tout comprendre. Ce que le Seigneur va te révéler là. Il ne faut pas laisser les autres te distraire et puis te dire, ah, c'est bizarre. Toi, tu es bizarre. On n'a jamais vu ça. Non, ne les écoute pas. Ce monsieur a donné un bon coup de poing et le monsieur a été guéri. Le Saint-Esprit est celui qui conduit encore aujourd'hui. Donc, il t'appelle à composer avec lui. Compose seulement avec le Saint-Esprit. Il est là en toi. Il marche avec toi. Il te parle. Compose seulement avec lui pour connaître sa volonté. Et il t'accordera ensuite la force d'accomplir sa volonté. Parfois, on inverse aussi. On demande la force, on demande la puissance pour accomplir. Mais accomplir quoi? Tu ne sais même pas dans quel domaine tu dois agir et tu demandes la dotation en force et en puissance. Non. Compose d'abord avec le Saint-Esprit. Reçois la révélation et après, tu pourras lui demander la force. De toute façon, si tu composes avec lui, la force aussi va te le donner. Oui, il va te la donner et ça va bien marcher. Oui, le Saint-Esprit doit être notre compagnon. Notre compagnon, il doit être écouté. Dieu révèle sa volonté à celui qui est en intimité avec le Saint-Esprit et qui est humble. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de comprendre les choses, la capacité de voir les choses. Il révèle sa volonté. Sa volonté est révélée à celui qui a un cœur disposé à l'obéissance. Il voit aussi, si tu es obéissant, il te révèle parce qu'il sait que tu vas faire. Il y a des gens qui sont spécialistes. Ils savent que le Saint-Esprit leur parle, mais ils minimisent. Le Saint-Esprit est devenu comme leur copain. N'écoute pas. Alors, il ne va pas continuer. Mais s'il voit que tu es prompt à obéir, il va te révéler les choses. Troisième point, il faut attendre les directives de Dieu. Il faut attendre avant de faire les choses. Parce que vous voyez la tendance de ceux à qui le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu font exactement La tendance, c'est la même tendance que ces prophètes et ces docteurs que nous avons cités. Ils s'appellent Barnabas, Siméon, Lucius, Cyrène, Manahen. Parce que eux, ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère. Mais comment? Comment ils servaient le Seigneur? Dans la prière et dans le jeûne. Ils étaient dans la prière et dans le jeûne. Ça, c'est un élément capital dans notre consécration, dans notre responsabilité. Dans la prière et le jeûne, ils servaient le Seigneur. C'est une bonne attitude pour demander à Dieu sa volonté. Alléluia. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Il faut prier, il faut jeûner. Jeûner, prier. Alléluia. Ils attendent les directives dans le jeûne et la prière, dans une étroite union avec le Seigneur. Ils étaient serrés, collés avec Dieu. Ils priaient pour tout. Je bénis le Seigneur pour l'éducation que j'ai reçue. On devait prier pour tout, même pour faire le foufou là. Quand la bouillie est prête et tu dois mettre la farine là-bas pour tourner. Même si c'est « Merci Seigneur », tu vas le dire avant de faire. Pour n'importe quelle chose, il faut prier. Et pour ça, je bénis le Seigneur pour le réflexe que j'ai donné, que j'ai reçu. Quand je rentre dans la voiture, avant de démarrer, le réflexe est là. Je prie. Je me confie en toi. Protège-moi, etc. Oui, les gens que nous avons cités, les prophètes et puis les docteurs que nous avons cités, ils avaient cette attitude-là, cette attitude pour demander à Dieu sa volonté. Vous savez, les grands ministères qui ont impacté et duré dans le temps sont nés et entretenus dans le jeûne et la prière. Tu veux être un grand quelqu'un? Voilà. Il faut faire du jeûne et de la prière tes amis, ta nourriture. Tes compagnons de route. Alléluia. C'est ça le secret. Vous voyez les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu. Grattez un peu. Voyez le nombre d'heures qu'ils passent dans la prière. Le nombre de privations de nourriture. Oui, c'est le prix à payer. Et c'est ce que ces prophètes et docteurs nous enseignent. Voici une autre responsabilité du chrétien dans la consécration. Tu ne peux pas prendre tes rêves pour la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans ton ignorance des choses sans vie de prière et de jeûne et prétendre recevoir des révélations de Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière continue, conséquente, il faut oublier. Dieu m'a dit. Il t'a dit comment? Il t'a dit comment? Non. Tu es en train de rêver. Tu as bien mangé. Et tu es là assis. Tu rêves seulement. Et tu prends ça pour la réalité. Alléluia. Que Dieu nous aide à passer d'abord par la chambre haute avant de vivre la Pentecôte. Les disciples étaient assidus à la chambre haute jusqu'à ce que la Pentecôte arrive, que le Saint-Esprit descende. C'est la même chose aussi pour nous. Alléluia. Dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit a apporté le réveil là où des personnes l'ont recherché ardemment et assidûment, dans des prières, des jeûnes et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, tout au long de l'histoire, il y a eu des poches de réveil comme ça. On parle de couvents, de monastères. Oui, ils ont été fondés. Les couvents, les monastères ont été fondés par la vie de prière. Ce sont des gens qui ont recherché le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté et il y avait le parler en langue, il y avait la guérison, il y avait des prophéties, il y avait les dons charismatiques dans ces monastères et dans ces couvents. Alléluia! Oui, les poches de réveil. Et Dieu veut que El Shaddai aussi soit une poche de réveil. Alléluia. Le Seigneur nous a aidés depuis le mois de juin, je crois. Tous les soirs, nous prions à partir de 20h, 20h à 21h. Ça, c'est quelque chose de bien. C'est comme ça que le réveil peut venir. Mais ça, c'est pour nous exercer, on le fait en commun, pour que chacun puisse avoir aussi sa vie de prière individuelle. Alléluia. On ne peut pas connaître le réveil, un ministère puissant, tout en dormant de 22h à 6h du matin. Et puis 5 minutes, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la nuit. Merci Seigneur pour la journée. Et puis on baille et puis... Non. Il faut veiller, veiller les nuits. Veiller les nuits. Quand je suis fatiguée, je ne peux pas me lever là. Je suis couchée dans mon lit. Et puis je prie. Je prie. Si le Seigneur me réveille à 2h, oui, à 3h du matin, je démarre. Ah oui, je n'ai pas besoin de sortir de mon lit. Je peux rester dans mon lit et bien me concentrer. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Combien de gens font des retraites spirituelles dans la recherche du Saint-Esprit? Depuis que nous sommes ici, est-ce qu'on a déjà fait une retraite spirituelle pour rechercher le Saint-Esprit? Que Dieu nous aide. Combien se réunissent pour rechercher le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il se manifeste? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il y a des expériences, des exemples de personnes qui l'ont recherché d'une manière assidue et persévérante pendant toute une année. Et quand le Saint-Esprit s'est manifesté, ils ont connu un réel changement intérieur et un départ de ministère puissant. Puis, ils ont servi de référence. Si le réveil tombe ici, si nous cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur et le Saint-Esprit se manifeste, il y aura un rayonnement. Ça sera une poche de départ. Alléluia. Et ça peut être quelque chose de mondial. Donc, persévérons. Persévérons, c'est là notre responsabilité. Cherchez Dieu dans le jeûne et la prière. Demande à ton voisin, depuis quand est-ce que tu as jeûné? Quel est le programme pour toi en 2024 de rechercher ardemment le Saint-Esprit? Ah ah! Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Ces gens-là qui ont cherché pendant une année jusqu'à ce que le Saint-Esprit se manifeste, on peut dire d'eux qu'ils ont été vraiment mis à part, comme le texte nous le dit au verset 2b. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu peux vraiment taper ta poitrine et puis dire oui, Dieu m'a mis à part si tu cherches ardemment le Seigneur, même si ça va te prendre un an, comme eux-là, jusqu'à ce que tu reçoives la visitation du Saint-Esprit. D'ailleurs, ça va se voir. Ça va se manifester à l'intérieur de toi et ça va se voir. Alléluia. Et tu peux te dire maintenant, je suis vraiment mise à part. Hein? Appelé. C'est le Saint-Esprit qui a choisi Saul et Barnabas et qui responsabilise les prophètes et les docteurs, Siméon, Barnabas, Lucius de Cyrène, Manaëm, à les mettre à part et à les envoyer en mission vers les païens. Le Saint-Esprit a responsabilisé des personnes aussi qui étaient en jeûne et en prière. Alléluia. Vous comprenez? Il y a deux choses. Il y a l'envoyé et il y a l'envoyeur. Tu veux envoyer des gens en mission. Hein? Tu veux être responsable dans quelque chose. Hein? Il faut payer le prix. Dieu va voir que tu le cherches réellement dans le jeûne et dans la prière. Alors tu pourras y parvenir. Alléluia. Ces représentants de l'Église qui priaient et jeûnaient ne savaient pas que Dieu avait un projet pour l'Europe aussi. Ils jeûnaient ils ne savaient pas. Et Dieu leur dit, je viens répondre à votre prière. Envoyez Saul et Barnabas. Parce que la destinée, l'une des destinées, c'était l'Europe. Si vous lisez bien dans Actes des Apôtres, vous allez voir que deux fois, le Saint-Esprit a empêché à Paul d'aller en Asie. Il lui a dit d'aller en Macédoine. Et quand il a été en Macédoine, la Macédoine, c'est l'Europe. Il a été en Macédoine, c'est là qu'il a vu à la rivière Lydie, qui était une femme qui craignait Dieu, et que Dieu a ouvert son esprit. Elle a entendu la parole de Dieu et elle s'est convertie, elle s'est baptisée et elle a ouvert sa porte pour l'Église. Elle a fondé la première Église de l'Europe. C'était une femme. D'aucuns disaient qu'elle était veuve et d'autres disent qu'elle était une esclave affranchie. Soit, si elle était veuve ou esclave, ça ne change rien. C'était une femme. Quand on dit, mais l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne permets pas à la femme de dominer sur l'homme. Hey, c'est l'apôtre Paul lui-même qui a parlé à Lydie. Et après, Lydie a ouvert la porte de sa maison. Lydie a dit, si vous me trouvez vraiment digne, si vous croyez vraiment que je suis devenu un enfant de Dieu, venez dans ma maison. Et Paul est venu dans sa maison, Paul, Silas et Luc sont allés dans sa maison. Et l'église a commencé là. Et après, quand Paul et Silas sont allés pour prêcher, et ils ont chassé les démons, l'esprit de Python qui était dans la fille là. Et puis après, ils se sont retrouvés en prison. Et de là, le geôlier s'est converti. Quand le Seigneur les a libérés de là, ils sont revenus dans la maison de Lydie pour fortifier les frères et les sœurs qui étaient là, pour fortifier l'Église. Qui a dit qu'une femme ne peut pas être pasteur? Qui a dit qu'une femme ne peut pas créer une Église? Qui a dit qu'une femme ne peut pas enseigner? C'est l'apôtre Paul! L'apôtre Paul, on prend ses écrits, on les déforme et on oublie que c'est le même apôtre Paul qui a eu quand on ouvre une église là, cofondatrice, sa cofondatrice c'était une femme. Et quand il est sorti de la prison, il est allé chez la cofondatrice pour fortifier les gens. Et nous avons l'épître aux Philippiens, non? Oui, il a écrit. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, un nommé Ignace, qui a aussi écrit aux Philippiens. C'est une église fondée par une femme. Et on parle de cette église jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, l'apôtre Paul, on dit qu'il est misogyne, mais dans la prison, le geôlier s'est converti. Ah, il n'a pas dit, bon, comme c'est un homme, voilà, l'église doit être chez lui. Non, 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 non. Il a laissé l'église chez Lydie. C'est Lydie qui était la chef de l'église. Parce que Lydie avait une position qui allait lui permettre de propager l'évangile partout dans le monde, parce que les pays du bassin méditerranéen venaient à Thyatira. Elle était de Thyatira, voilà, il venait là où était, j'ai le trou de mémoire, il venait là où était Lydie, parce que Lydie était une grande commerçante de pourpre. Ce n'est pas n'importe quel commerce, c'est le commerce de valeur. Donc, elle était bien positionnée. Tous les commerçants des pays du bassin méditerranéen la connaissaient. Ils venaient, il y avait une transaction. Elle avait un rapport avec eux. Donc, dans sa position, en vendant sa marchandise, elle a évangélisé. Donc, chacun est reparti chez lui avec l'évangile. Et c'est comme ça que les églises se sont fondées en Asie, en Europe, en Afrique, à partir de Lydie. Si c'était les geôliers, lui, il est gardien de prison. Quel impact il allait avoir comme Lydie? Vous voyez, Dieu a ses stratégies. Il utilise qui il veut. Alléluia. Glorifions le nom de notre Seigneur. Le Seigneur a besoin d'hommes mis à part par le Saint-Esprit, des hommes qui laissent le Saint-Esprit et sa puissance changer leur cœur et transformer leur vie. Des hommes qui ne cherchent pas le Saint-Esprit pour l'œuvre, mais pour leur satisfaction personnelle, mais pour vaincre leur ego. Le pasteur Élie a parlé de ça ce matin. Pour vaincre leur ego et pour qu'ils soient forgés à l'image de Jésus. L'objectif de rechercher le Saint-Esprit assidûment, c'est notre transformation intérieure. Notre ego doit disparaître. Alléluia. Vous voyez les enfants, tout est moi. Moi, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon grand-père, c'est mon jouet, c'est mon là. Ça là, ça doit disparaître. Ça doit disparaître quand on veut vivre une vie de consécration. Alors le Saint-Esprit viendra pour travailler en toi, pour enlever ce ego-là. Alléluia. Yeah. Quand on regarde seulement bizarrement, ah, elle m'a regardé bizarrement, ça m'a fait mal au cœur. On m'a mal parlé, ah, ça m'a fait mal au cœur. On m'a accusé, ouh, ça m'a fait mal au cœur. Hey, le Saint-Esprit, quand il va venir, il va enlever tout ça là. Même si on te piétine, tu n'auras plus mal au cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a agi. Il vient pour nous travailler. Il vient pour nous transformer. Alléluia. Dieu veut que l'on puisse avoir des temps de jeûne et de prière, rechercher la puissance du Saint-Esprit. Pour ça. Pas pour, oui, je guéris des malades, quand je presse, waouh, tout le monde m'écoute, j'harangue des foules et je suis content. Là, on satisfait encore notre ego. C'est peine perdue. Et là, on manque de productivité, c'est-à-dire qu'après nous, c'est fini. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Il faut qu'après nous, il y ait la suite. Alors, en ce moment, on pourra dire qu'on a réussi notre mission. Et pour réussir notre mission, notre ego doit être ôté. Alléluia. Et il faut demander le Saint-Esprit. Priez, 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 priez pour être rempli du Saint-Esprit, pour être revêtu du Saint-Esprit, pour que le travail se fasse à l'intérieur. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui recherchent la puissance pour marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Qui est-ce qui a déjà jeûné et prié pour demander à Dieu de l'aider à marcher dans la sanctification? C'est rare, hein? C'est Dieu, donne-moi une voiture. Hein? Je cherche une femme. Tu vois, dans mon travail, on me lorgne. On est méchant envers moi. Il faut les chasser. Hey, mon mari, si, ma femme, si, mes enfants, si. Oui, c'est bien, il faut prier, demander la grâce de Dieu. Mais ça ne doit pas rester là. Il faut passer à l'étape supérieure. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour rechercher à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. On a craché sur Jésus. Est-ce qu'il a craché en retour? Non. Qu'est-ce que Jésus n'a pas supporté? Mais on n'a jamais vu qu'il a fait des ripostes. Non. On cherchait même à le précipiter du haut des falaises là. Et il passe tout simplement comme ça parmi les gens pour partir. Il n'a jamais bousculé et puis dit, ouais, je suis le fils de Dieu, je suis fort, quittez ici. Non. Nous devons être semblables à Jésus. Il a été rejeté même par les gens de sa nation. Mais il n'a pas rendu le mal pour le mal. Au contraire, il leur a parlé pour qu'ils changent, que leur entendement change. Mais malheureusement, il y avait des bouchons dans leurs oreilles. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui recherchent sa puissance pour aider les autres à grandir spirituellement. Alléluia. Il faut d'abord être grand spirituellement avant d'aider l'autre à grandir. Il faut rechercher à grandir. Quand on aide les autres à grandir, c'est que l'ego, il est mort, non? Parce que les enfants, tout c'est moi. Mais ici, c'est l'autre. Normalement, j'ai participé pour la journée du 8 mars comme une émission. Peut-être que d'autres ont déjà eu l'occasion de regarder ou vont regarder. On m'a demandé de parler. J'ai eu l'occasion de dire, être petit pour que les autres puissent devenir. C'est ce que papa et moi nous avons fait. Partout où nous sommes passés, ministère tout petit, mais nous avons impacté des ministères. On a aidé des gens à devenir. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Se priver pour que les autres arrivent. Et quand on demande aux gens de laisser la place aux nouveaux pour qu'ils puissent aussi prendre leur place et puis servir le Seigneur, on nous lapide, on nous lance des pierres. Comment? On ne peut pas parler comme ça. Mais c'est ce que nous avons fait. On a laissé de la place à beaucoup de gens. Si on devait mettre tout notre savoir là, hein, en haut comme ça, personne, on n'allait pas avoir un grand impact qu'on a eu. Il faut savoir arriver à là. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette dotation. Alléluia. De soi-même, on n'est pas capable. Celui qui n'est pas mis à part va rechercher le Saint-Esprit et sa puissance pour le spectaculaire et aura peu de reproductivité. Mais celui qui est mis à part par le Saint-Esprit va le laisser diriger toutes les parcelles de sa vie et de son cœur. Ça va se voir dans son caractère. Ah oui, celui qui est mis à part réellement, ça va se voir dans son caractère. Ça va se voir dans la parole qui sort de sa bouche. Ça va se voir dans ses pensées. C'est visible. C'est quelque chose de visible. Que le Seigneur nous aide à être mis à part par son esprit. Vous savez, on sait reconnaître les gens en observant leurs réactions. La parole qui sort de leur bouche. Il faut observer seulement et tu sauras qui est qui. C'est suffisant. Pas besoin de se justifier. On voit. Alléluia. Et on peut s'étonner que, oui, je suis là depuis longtemps, mais on ne me voit pas. L'autre vient d'arriver, on le voit. Mais on voit, par tes réactions là, par ta parole, on sait que ce n'est pas encore arrivé. Et on va prier pour toi, pour que Dieu t'aide à dépasser ça. Si tu veux parvenir à ce que tu veux là, il faut abandonner ce que l'on voit. On vise ce que l'on voit, on vise à ce que ça disparaisse. Si on voit que ça disparaît, on peut dire maintenant, tu es apte à telle ou telle chose. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne de faire le bon choix et qu'il nous amène lui-même à l'humilité. Le Seigneur t'invite cet après-midi à être mis à part afin que tu sois béni. Et le Seigneur t'invite. Il invite une personne au milieu de nous, à être quelqu'un à qui le Saint-Esprit peut donner l'autorité de mettre à part des personnes pour Dieu. Alléluia. Le Seigneur cherche. Il cherche aussi une église. Il veut que El Shaddai arrive à cette position-là. Alléluia. Envoyer des gens comme le Saint-Esprit a donné l'instruction à ces représentants d'église-là, mettez-moi à part Paul et Silas. C'est parce qu'ils avaient une autorité. Dieu veut qu'à El Shaddai aussi, nous puissions envoyer des gens comme ça, des gens mis à part. Gloire à Dieu. Wow, je risque de ne pas tout terminer. Paul et Barnabas, qui ont été désignés par le Saint-Esprit, mis à part par les représentants de l'Église et envoyés par le Saint-Esprit. Au verset 3 et 4, nous voyons là qu'ils ont été, ils ont suivi ce schéma. Ils ont été désignés par le Saint-Esprit, mis à part par les représentants de l'Église, envoyés par le Saint-Esprit. Quand ils ont connu ces étapes-là, ils sont partis. Puisque le Saint-Esprit les a envoyés, alors ils sont partis. Ils sont partis. Puisqu'ils étaient intimes avec le Saint-Esprit, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris leur responsabilité. Et ils sont passés à l'action. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu vis avec le Saint-Esprit, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il te donne la capacité de comprendre tes responsabilités et la capacité de passer à l'action, comme Paul et Barnabas. Ils sont allés. La responsabilité du chrétien dans la consécration est liée à l'Esprit Saint. Après les instructions du Saint-Esprit, les représentants de l'Église d'Antioche ont prié et jeûné à nouveau avant d'imposer les mains et de laisser partir Paul et Barnabas. Ils prient, Dieu révèle, Dieu dit, envoyez-les, et ils se mettent encore à prier avant de faire l'imposition de mains et de les envoyer. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont l'esprit de prière. Leur état d'esprit, c'est ça, la prière. Parce qu'ils savent qu'ils dépendent de Dieu en toutes choses. Ils devaient avoir encore la révélation de Dieu. Alléluia. Ils ont jeûné et prié encore. Que Dieu nous aide à actionner toujours la clé. La prière, c'est une clé. Une clé, quand tu arrives devant ta maison, c'est fermé. Si tu mets la clé, tu tournes, tu vas avoir accès à ta maison. Et Dieu nous a donné des clés. La clé, c'est la prière. Et ces représentants de l'église d'Antioche avaient compris. Il faut actionner à chaque fois par la prière. Ils ont prié, Dieu a révélé. Après, ils ont encore prié. Avant de passer à l'action, il faut être des machines de prière. Il faut que ce soit automatique. Alléluia. Il y a une puissance extraordinaire dans la prière. Nous pouvons ouvrir toutes les portes avec la prière. Elle est source de bénédiction intérieure. Elle permet à Dieu de travailler dans nos vies pour qu'elles soient saintes et porteuses de fruits. La prière doit nous accompagner tout au long de notre vie. Alléluia. Alléluia. J'espère et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train d'enfoncer le clou. Il veut nous amener à une dimension supérieure de prière. Alléluia, d'intimité avec lui dans la prière et dans le jeûne. Donc, le quatrième point, avant de terminer, je crois que je vais terminer, il reste quelques phrases. Il faut obéir au Saint-Esprit et lui permettre de prendre les rênes de notre vie avec une véritable bénédiction, qui est une véritable bénédiction. Quand on arrive à obéir au Saint-Esprit, quand on arrive à lui permettre de prendre les rênes de notre vie, alors là, on peut parler de véritable bénédiction. On peut dire que nous sommes bénis. Quand tu dis que je suis béni là, ça veut dire que tu obéis au Saint-Esprit. Et tu lui as laissé toute la latitude de diriger ta vie. En ce moment, tu peux proclamer, je suis une personne bénie. Autrement, non. Barnabas et Saul reçurent de grandes bénédictions. Et le Saint-Esprit était celui qui les conduisait. J'ai déjà dit, Paul a été empêché d'aller en Asie et il fut conduit en Europe. Dieu a une bénédiction aussi pour nous, pour toi, pour moi. Le Saint-Esprit qui est le pouvoir exécutif, il est là pour nous donner cette bénédiction. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier, demander à Dieu de nous pardonner d'avoir laissé notre moi souvent prendre la place du Saint-Esprit. Au lieu que le Saint-Esprit prenne notre vie en main, c'est notre moi, notre ego. Alors nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon pour nos échecs dus à l'usurpation de la place du Saint-Esprit. Alléluia.